Bonjour Gilles, bonjour à tous. Haïti à la une et un changement au sein du Conseil présidentiel de transition à cause de pression, dit l'intéressé, et pendant que les discussions politiques s'éternisent, la situation ne s'améliore pas. La France poursuit l'évacuation de ses ressortissants. Nous serons en direct dans un instant avec notre correspondante. Comme chaque jour, l'actualité des Outre-mer. Alex Léveillé, on va reparler avec vous de ces évacuations d'Haïti.
Et oui, pour parler de ces évacuations des Français et puis du trafic de cocaïne aussi en Guadeloupe.
Merci, on vous retrouve dans quelques minutes. On parlera aussi aujourd'hui du Venezuela. Dernier jour pour les candidats pour s'enregistrer auprès du Conseil électoral avant la présidentielle du mois de juillet prochain.
Port-au-Prince, 89.3 FM.
La situation politique est toujours aussi confuse en Haïti et les débuts du Conseil présidentiel de transition très laborieux. L'unique femme désignée pour en faire partie a jeté l'éponge hier. Dominique Dupuis abandonne. Elle dit avoir reçu des menaces, des intimidations, des gestes qui sont dénoncés par l'accord Montana ce matin. En Haïti, la situation donc est toujours aussi compliquée. Je vous le disais il y a quelques instants, les évacuations de ressortissants français se poursuivent alors qu'on entend toujours des tirs dans plusieurs quartiers, que les attaques se multiplient, notamment contre des bâtiments de police. Les gangs ne relâchent pas la pression. Nous sommes en direct avec notre correspondante à Port-au-Prince, Marie-Andrée Bélange. La situation a donc poussé de nombreux étrangers à partir, et notamment les Français.
Ce sont les ressortissants les plus vulnérables, personnes âgées, enfants, qui ont pu quitter Port-au-Prince grâce à des vols spéciaux coordonnés par le ministère français des Affaires étrangères. Ils ont été transportés dans un bateau de la Marine nationale afin de rejoindre la Martinique. Vu la fermeture de l'aéroport, ce sont des hélicoptères qui assurent le retrait des Français de la capitale haïtienne. Selon le Quai d'Orsay, plus d'un millier de Français, parmi eux un grand nombre de binationaux, vivent en Haïti. L'ambassade de France à Port-au-Prince reste ouverte, mais ne reçoit pas de nouvelles demandes pour l'instant. Les ressortissants français qui souhaitent quitter Haïti peuvent le signaler à l'ambassade de France à Port-au-Prince. Pendant ce temps, les Haïtiens ont vécu un week-end mouvementé. Des tirs ont été rapportés dans le quartier de Fort National où se situe un bâtiment de police. Dans la commune de Tabar, des bandits armés ont tiré sur un bâtiment de police également.
Marie-Andrée Bélange en direct de Port-au-Prince. Nous sommes aussi en ligne avec nos confrères de La Première pour évoquer cette situation. Alex Léveillé, on l'évoquait il y a quelques secondes, la France donc affrète des vols spéciaux pour évacuer ses ressortissants vulnérables, Marie-Andrée nous le disait. Évacuation vers la Martinique et la Guadeloupe.
Et oui, puisque vous le savez, cette crise politique et sécuritaire profonde que connaît le pays, eh bien voilà, les ressortissants français, donc les plus vulnérables, seront dirigés vers la Martinique ou la Guadeloupe. Claude Gracien de Martinique, La Première, a réussi à joindre un Martiniquais qui vit en Haïti. Il a accepté de témoigner.
Je dois confirmer que les ressortissants français ont été contactés par l'ambassade de France dans un premier temps pour s'assurer que tous étaient toujours présents, forcément, parce qu'il peut y avoir certains Français qui sont recensés au niveau de l'ambassade, mais qui ne vivent plus en Haïti. Donc, l'ambassade nous a contactés pour vérifier qui était présent, etc., nous faisant savoir qu'en cas d'évacuation, est-ce que nous serions intéressés à faire partie des différents groupes qui seraient évacués. Maintenant, pour ma part, malheureusement, je ne pourrais pas partir. Je vis avec ma femme sur Port-au-Prince. Ma femme est haïtienne. Nous ne sommes pas encore enregistrés en tant que couple marié, bien que nous vivons ensemble depuis un certain nombre d'années déjà, ce qui fait que, logiquement, je ne peux pas tomber sous le coup de la loi permettant à un ressortissant français de partir avec un membre de sa famille qui serait étranger ou étrangère.
Et selon les chiffres du Quai d'Orsay, un peu plus de 1000 Français vivent actuellement en Haïti.
Alex Léveillé, on vous retrouve dans quelques minutes pour parler donc du reste de l'actualité des Outre-mer et notamment de ce trafic de cocaïne que vous évoquiez. En attendant, on va continuer à parler d'Haïti, des conséquences des violences avec notre invité. Bonjour Philippe Branchat.
Bonjour Adam.
Vous êtes chef de mission de l'Organisation internationale pour les migrations en Haïti. La situation est encore très compliquée, notre correspondante nous l'a dit. Malgré cela, on a l'impression d'assister à une accalmie très, très relative. Toutefois, la situation des personnes déplacées reste extrêmement compliquée à Port-au-Prince et dans toute la zone métropolitaine qui compte près de 89 000 déplacés. Plus de la moitié sont des femmes, 34% des enfants et la situation donc ne s'améliore pas, Philippe Branchat.
En fait, on se retrouve dans une situation où des déplacés sont contraints de se déplacer de nouveau. Donc, statistiquement, quelque part, les chiffres vont être relativement stables. Néanmoins, ils cachent une autre réalité qui est une très grande fluidité avec une violence qui se déplace et qui entraîne de nouveaux déplacements.
De personnes qui se déplacent très peu, en fait. On se rend compte qu'on ne va pas très loin quand on essaie d'échapper à la violence des gangs.
Oui, vous avez raison. On a très peu de visibilité. À moins d'avoir une famille qui puisse vous héberger. On constate une érosion, en effet, de la capacité des familles d'accueil à recevoir surtout sur le long terme, parce que le problème, c'est ça. C'est autant vous pouvez trouver une famille pour vous accueillir, des membres d'une famille ou des amis pour vous accueillir quelques jours, quelques semaines. Mais là, on se retrouve dans une crise qui est longue et qui fait payer un lourd tribut à tout le monde. Tout le monde rencontre des difficultés, que ce soit d'approvisionnement en fuel, en eau parfois, en eau potable surtout. Et la nourriture devient très chère. Donc tout le monde souffre de cette insécurité et de cette situation d'enfermement. Donc voilà, on constate depuis des mois qu'on était avant, il y a un an et demi, à 3 IDP sur 4 à être en famille d'accueil. Aujourd'hui, on tend plus vers 2 sur 3 à être en site. Et là, les conditions d'hygiène, de sécurité, de protection en général sont terribles.
C'est ce que j'allais vous demander. Donc les deux tiers des personnes qui aujourd'hui se retrouvent dans des sites d'hébergement, parfois vraiment d'urgence et pas tout à fait adaptées. Quelles sont les conditions de vie de ces personnes déplacées ?
C'est la plus grande précarité et l'exposition à tous les risques. Risque sanitaire, c'est une évidence, mais risque de violence au sein du site, mais surtout de l'extérieur, potentiellement de recrutement également. Et on a aujourd'hui des situations de violence sexuelle qui sont inouïes. C'est une arme de guerre, donc c'est utilisé pour terroriser. Et aujourd'hui, on est plus sur des logiques de terrorisme avec des scènes qui sont filmées et qui sont reproduites sur les réseaux sociaux pour justement générer cette terreur.
Alimenter la peur, des conditions de vie qui sont absolument catastrophiques, mais en plus, l'accueil est précaire dans la durée. On peut lire, par exemple, dans les documents de votre organisation, qu'un déplacé sur quatre aujourd'hui est menacé d'éviction.
Oui, on se retrouve aujourd'hui dans une situation où malheureusement, pour plusieurs raisons, que ce soit la violence qui se déplace ou qui s'étend, je dirais, pas tellement qui se déplace, mais qui s'étend, mais aussi des tensions dans des quartiers avec des populations qui sont donc contraintes de se déplacer, mais vers les mêmes sites, et donc renforcer cette situation de surpeuplement qu'on constate de plus en plus. Mais ce qui me paraît important aussi de mentionner, c'est qu'au-delà des besoins humanitaires élémentaires à satisfaire, donc l'eau, l'abri, on est dans une période où la saison des pluies approche. Il est important aussi de prendre en compte la détresse psychologique. Et donc, on a aussi des équipes de psychologues pour adresser les cas les plus de détresse les plus absolus. On essaye de mettre en sécurité les femmes les plus exposées, qui ont des enfants et qui sont seules.
Avec, évidemment, quand c'est possible, la possibilité de faire héberger ces personnes par des familles. Ça arrive aussi, il y a quand même un certain nombre de personnes déplacées qui arrivent à quitter ces fameux sites dont on parlait à l'instant pour aller retrouver des proches.
Oui, et en province. Donc, alors, au-delà du mécanisme de mise en sécurité dans des refuges pour les femmes les plus exposées avec leurs enfants, on a développé un mécanisme où on appuie au transport vers la province les personnes déplacées qui auraient de la famille qui pourrait les héberger.
Et sur la période récente, ça représente combien de personnes qui ont pu rejoindre des proches ?
Quelques centaines. La plus grande contrainte, ça a été la sécurité. On a commencé ce processus il y a quelques mois. Et du fait de l'enfermement qu'on a pu vivre jusqu'au début du mois de mars, vous aviez beaucoup de personnes qui essayaient de partir, donc arrivaient à avoir un billet et qui étaient obligées de faire demi-tour du fait de la violence. On a eu même des situations où de passer par la mer était rendu impossible. Les embarcations étaient visées par les gangs. Donc même en bateau, les bateaux devaient faire demi-tour. Donc là, on se retrouve dans une situation où heureusement, la situation est un tout petit peu plus fluide pour des raisons diverses et permet de sortir. On a constaté 33 000 personnes ont pu sortir de Port-au-Prince depuis le 8 mars jusqu'à aujourd'hui et un grand nombre est allé dans le sud. Les deux tiers sont allés dans le sud.
Alors, on a beaucoup parlé des déplacés internes. Il y a un autre problème, c'est que malgré ces difficultés, malgré ces violences, malgré toute la situation que vous nous décrivez depuis quelques minutes, eh bien, un certain nombre de pays refoulent des Haïtiens qui vivaient sur leur sol. C'est le cas notamment beaucoup de la République dominicaine. Comment ça se passe pour ces personnes-là ?
Ça se passe difficilement. La difficulté est aussi dans les faibles ressources du gouvernement haïtien pour faire en sorte que ce retour se fasse dans la dignité. Et s'il y a un plaidoyer à faire, encore une fois, il est que on ne recommande pas, on demande aux pays voisins, parce qu'il n'y a pas que la République dominicaine, mais c'est vrai que la République dominicaine représente 95%, 96% des retours forcés, on demande aux différents pays voisins de ne pas renvoyer d'Haïtiens, même irréguliers, en Haïti. La situation ne le permet pas. Maintenant, ça reste une décision d'un pays souverain. Mais dès lors, il est important que ces retours se fassent dans la dignité. Or, là, on constate que dans beaucoup de situations, le retour ne se fait pas dans la dignité. Et le gouvernement haïtien, avec les moyens à sa disposition, tente de le faire, mais donc on est en appui d'abord aux migrants qui reviennent, aux ressortissants haïtiens qui reviennent, qui sont retournés de force, en leur offrant un repas chaud, en leur offrant déjà un accueil, et la possibilité de prendre un transport public pour rentrer chez eux.
Parce que concrètement, ces personnes-là sont reconduites à la frontière et c'est tout, on les laisse de l'autre côté de la frontière.
C'est ça. Oui. Et dans des conditions, encore une fois, qui sont inadmissibles. À savoir à la nuit, parfois avec des mineurs isolés, parfois des femmes enceintes ou allaitantes. Toutes ces conditions, normalement, ne sont pas admises. Donc voilà, on se retrouve. Le retour forcé est déjà problématique dans un contexte comme celui d'Haïti. Il est d'autant plus préoccupant lorsque les conditions d'un retour dans la dignité ne sont pas assurées.
Je vous remercie beaucoup, Philippe Branchat, d'avoir été en ligne avec nous. Et je rappelle que vous êtes chef de mission de l'OIM en Haïti. Très bonne journée.
Radio France Internationale.
C'est une étape majeure au Brésil après l'assassinat en 2018 d'une femme politique et militante féministe, militante aussi des droits des LGBT. Les commanditaires présumés de l'assassinat de Marielle Franco ont été arrêtés et la presse s'en fait l'écho, Marine de la Moissonnière.
Oui, 6 ans après l'assassinat de cette élue noire, 3 personnes ont été interpellées, rapporte au Globo. Un député et son frère, lui-même conseiller à la Cour des comptes de l'État de Rio, ainsi que l'ex-chef de la police civile de la ville. Comme l'explique Le Quotidien, ils ont été dénoncés par celui qui a tiré sur la conseillère municipale de Rio et son chauffeur, les tuant tous les deux. Cet homme, c'est un ancien membre de la police militaire de Rio.
Et ce crime avait été préparé minutieusement.
Oui, Marielle Franco a été tuée en mars 2018, mais le trio s'était mis d'accord au second semestre 2017, détaille au Globo. Le chef de la police avait promis aux deux frères qu'il ferait en sorte qu'ils ne soient pas inquiétés. C'est lui qui a planifié l'assassinat, explique le journal, ajoutant qu'il avait même interdit que l'exécution de Marielle Franco ait lieu à proximité de la mairie de Rio, car si le meurtre était apparu comme politique, alors la police fédérale aurait été chargée d'enquêter. Il fallait absolument que les investigations restent dans le giron de la police de Rio, police qui, tout comme la justice, ont fait traîner l'enquête pendant des années. Comme l'explique Folia de Sao Paulo, cette affaire a mis au grand jour la contamination des institutions de Rio de Janeiro par le crime organisé.
Alors pourquoi Marielle Franco a-t-elle été tuée ? Quel est le mobile du crime ?
Eh bien, selon Folia, Marielle Marielle Franco a été tuée parce qu'elle était considérée comme un obstacle aux milices et à l'usurpation des terres. Les deux frères voulaient obtenir la régularisation de terrains et de constructions illégales à l'ouest et au nord de Rio. Tout cela à des fins commerciales, alors que la conseillère municipale née dans une favela et figure de la lutte pour les droits des communautés noires et LGBT militait, elle, pour qu'un usage social leur soit réservé.
L'actualité du continent au Venezuela. Les candidats à la présidentielle de fin juillet ont jusqu'à ce soir pour s'enregistrer auprès du Conseil électoral.
Oui, mais la principale alliance de l'opposition demande 3 jours de plus, comme le rapporte le site d'information Tal Cual. Un délai, car les codes qui lui ont été fournis pour inscrire leur candidate en ligne ne fonctionnent pas. Leur candidate, qui est désormais Corina Yoris, cette philosophe et professeure d'université de 80 ans, a remplacé Maria Corina Machado, que la justice vénézuélienne a déclarée inéligible. Quant à Nicolas Maduro, lui, eh bien, il va bien déposer sa candidature aujourd'hui. Il va le faire en grande pompe, explique à l'Universal. Son parti a convoqué tous ses partisans à faire la route avec lui. Une vraie démonstration de force, espèrent les cadres du parti.
Alors se pose aussi, Marine, la question des Vénézuéliens qui vivent à l'étranger. Ils sont censés pouvoir s'inscrire sur les listes électorales depuis lundi dernier, mais dans les faits, eh bien, ça n'est pas le cas.
Oui, le processus qui doit durer jusqu'au 16 avril a pris du retard, explique El Nacional. Un retard insupportable pour une jeune Vénézuélienne qui vit en Espagne et qui a commencé une grève de la faim samedi. Elle s'est installée face au consulat du Venezuela à Madrid. Elle accuse Nicolas Maduro de vouloir priver les 4 millions de Vénézuéliens qui vivent à l'étranger de leur droit de vote et de leur droit à réclamer un changement pour leur pays.
Une journée cruciale également aujourd'hui pour Donald Trump. L'ancien président américain et candidat est en ce moment même face à un tribunal de Manhattan qui doit lui donner une nouvelle date pour son procès concernant l'affaire Stormy Daniels, cette star du porno à qui il aurait versé de l'argent pour qu'elle garde leur liaison secrète. C'était avant la présidentielle de 2016. Et puis Donald Trump a aussi jusqu'à ce soir pour fournir à la justice new-yorkaise la preuve qu'il paiera bien le demi-milliard de dollars d'amende qui lui a été infligée. Condamnation cette fois pour des fraudes financières au sein de son empire immobilier. Un mot encore de l'actualité du continent au Chili. Le bidonville de San Antonio sur la côte pacifique, l'un des plus grands du pays, va être détruit, Marine.
Oui, la justice a donné 6 mois à ses occupants pour partir, rapporte la Radio Cooperativa. 3000 familles vivent actuellement sur 260 hectares de terre occupées illégalement. Les autorités veulent les récupérer pour construire un nouvel accès au port de la ville, mais les habitants, eux, refusent de partir et d'être relogés dans des trous à rats, comme ils disent. Ils demandent au gouvernement d'acheter tout simplement les terrains.
Marine de la Moissonnière, votre revue de presse à retrouver sur internet rfi.fr.
Le journal de l'Outre-mer.
On vous retrouve, Alex Léveillé, pour l'actualité donc des Outre-mer. Et on prend la direction de la Guadeloupe.
Et oui, la Guadeloupe, plaque tournante de la drogue. Dernière illustration la semaine dernière. 2,7 tonnes de cocaïne ont été saisies dans un conteneur au Havre. Marchandises qui provenaient donc de l'île de la Guadeloupe, font qu'Aristide. Cela fait des années que les Antilles en sont une plaque tournante du trafic de stupéfiants.
C'est en 2006 que les saisies qualifiées d'historiques de cocaïne dans nos régions ont débuté. Cette année-là, la frégate de surveillance, le Ventose, avait arraisonné dans les Antilles un cargo avec à son bord 4,3 tonnes de poudre blanche, une prise alors qualifiée de record. Mais au fil du temps, les records n'ont cessé d'être battus. 2021, le Dixmud parlait de saisies historiques à bord d'un bateau battant pavillon de San Kitts et Nevis. Mais quelques mois plus tard, c'était tout simplement le double, 12 tonnes, valeur marchande 2 milliards d'euros, qui étaient retrouvées toujours à bord d'un navire. L'année d'après, en 2022, le résultat total des saisies était de 5% supérieur à celui de 2021, 28,7 tonnes interceptées par les autorités françaises. Plus de la moitié de cette drogue avait transité par nos régions, 55% précisément, record jusqu'alors absolu, mais à nouveau explosé l'an dernier, plus de 33 tonnes pour 2023, dont des saisies coup sur coup. En février, par exemple, en l'espace d'une semaine, 3 interceptions, 5 tonnes recueillies. Simplement aux Antilles, ce sont 11 tonnes de cocaïne qui ont été saisies l'an dernier par les autorités françaises.
Et puis cette visite actuellement du président de la République, Emmanuel Macron, en Guyane pour 36 heures, un laps de temps court où sera abordé des thèmes comme l'évolution institutionnelle, la sécurité, l'orpaillage, la pêche et l'agriculture. Voilà, c'est la fin de cette édition. Excellente journée à tous.
Merci Alex Léveillé et merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve demain à partir de 13h10, temps universel. Et d'ici là, ne bougez pas, dans quelques secondes, de vive voix avec Pascal Paradou.